Clémence Denavy sur RFI.
Bonjour, bienvenue sur RFI, c'est le goût du monde. Ce jour-là, nous sommes à la Maison de la Poésie à Paris. Sur scène, Michel Troisgros raconte sa vie de chef cuisinier triplement étoilé, ses inspirations, le goût, les textures transmises par sa grand-mère italienne. À la fin de la conférence, c'est le temps des questions. La première posée, qui cuisine à la maison ?
Qui c'est qui l'a dit, là ? Elle l'a dit.
Qu'est-ce que vous mangez ?
Ce que me prépare Marie-Pierre.
Marie-Pierre, Jeanne, Alice, Nano, Anissa, vous, moi, comme tant d'autres, en cuisine tous les jours, plusieurs fois par jour, les déjeuners, les dîners, les imprévus. Ah, au fait, il y a trois copains du boulot qui viennent manger ce soir, les goûters d'anniversaire. Cette cuisine de tous les jours fait tellement partie du quotidien qu'on en oublie celles qui la font, on ne les voit pas. Elles disparaissent et pourtant, sur la table, de la magie. Enquête. Je file chez Baraka, l'épicerie de la chef Anto à Paris. Je sais qu'elle a ses deux petits garçons avec elle, c'est les vacances.
Je fais une émission autour des femmes qui cuisinent, mais de tout cet aspect dont on ne parle pas.
De tous ces aspects dont on ne parle pas,
ouais. Ben, par exemple, la femme qui est chef, la femme qui a une épicerie, la femme qui cuisine, qui écrit sur la cuisine. Puis quand elle rentre chez elle, qu'est-ce qu'elle fait ?
Ben, elle cuisine. Quand elle arrive, on lui dit « qu'est-ce qu'on mange ?» Et quand tu as cuisiné toute la journée, c'est une question qui peut très vite agacer. Vous étudiez que j'ai cuisiné toute la journée.
Par cette nourriture que tu fais, que tu proposes, sur laquelle tu écris, ce rôle de mère qui fait quand même la cuisine du quotidien, comment tu le vis ?
Ça s'impose un peu à moi, parce que la cuisine, c'est mon métier, mais à la maison, il faut le faire aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que je leur demande aussi à mes garçons de participer. Donc, eux, ils aiment bien, parce que c'est aussi des moments qu'on partage ensemble. Mais c'est vrai que des fois, c'est fatigant, parce que j'ai cuisiné toute la journée. Je pense pas forcément, moi, à manger. Et puis, je rentre et on me dit, qu'est-ce qu'on mange ? Et je dis, oh, c'est vrai, j'ai pas pensé. Donc, maintenant, ce que j'essaye de faire quand je cuisine, c'est de prévoir une portion pour la maison. Quand, par exemple, mon mari sait que j'ai un truc où je dois cuisiner, il va me demander c'est quoi le menu. Comme ça, il sait à l'avance, il fait à manger. Et surtout, je n'ai pas envie qu'ils se disent « Ah, pour les clients, elle se dépense et tout, et pour nous, elle ne fait pas grand-chose. »
Culpabilisation, on y est. Repas sur le pouce, ok. Excuse pour absence, ok.
Et le regard des autres ?
C'est une bonne question parce que mes parents sont à la maison en ce moment. Au début, ils me disaient « mais tu travailles trop » parce qu'ils sont arrivés forcément en fin d'année. Donc là où il y a plus de demandes, notamment pour tout ce qui est chef privé. En plus, j'avais le livre qui venait de sortir, donc il y avait pas mal de choses à faire. Là, ils ont vu en début d'année que c'est un peu plus calme, mais ils voient quand même qu'après avoir passé une journée à la boutique, quand je rentre, il faut s'occuper de faire à manger et tout ça. Donc ma mère, à chaque fois, elle est impressionnée en se disant « mais comment tu fais ?»
Mais oui, comment fait-elle ?
Et je lui dis « mais tu dis ça, mais je t'ai vu faire toi aussi comme ça, puisque ma mère travaillait beaucoup, notamment pour l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et donc, comme elle travaillait, elle se levait très tôt le matin pour cuisiner, parce qu'en plus, nous, on mangeait à midi à la maison. » Et le soir, elle devait encore cuisiner en rentrant du travail. Donc moi, je lui ai dit, mais je t'ai vu faire comme ça. Je ne comprends pas qu'elle soit surprise.
Et qu'est-ce qu'elle en a dit, votre mère ?
Non, mais je pense qu'elle-même, elle ne se rendait pas compte qu'elle faisait tout ça. Parce que ce qu'elle me disait, c'est que les générations d'aujourd'hui préfèrent aller acheter des repas tout faits. Et franchement, moi, c'est rare.
Charge mentale.
En Afrique, le poids est le même parce que les femmes, elles travaillent et quand elles vont travailler, elles s'occupent de la maison. Alors, ceux qui ont les moyens, ils vont avoir un cuisinier à domicile, ils vont avoir... Et encore, ça dépend des traditions. Moi, je viens d'une tribu où, même si on a les moyens de payer quelqu'un pour faire à manger, une femme doit faire à manger pour son mari. Le mari ne peut pas manger dehors. Et même mon papa me disait il y a quelques jours, la première fois que j'ai vu ta mère, je lui ai demandé si elle savait cuisiner.
Et la femme que vous êtes tantôt vivant ici à Paris, quel regard vous portez aujourd'hui ?
Après, moi, c'est vrai que j'ai grandi en Afrique
Et donc, j'ai eu cette éducation. Et quand je suis arrivée en Occident et que je voyais mes copines de classe qui ne savaient rien faire, j'étais toujours étonnée de me dire, mais comment c'est possible? Mais il y avait vraiment aussi le poids de la culture.
La culture, la société et la cuisine du quotidien incombraient donc aux femmes. La vie décide parfois pour elles ou leur mari, comme celui de la mère de Jodie.
Elle nous dit souvent, à mes sœurs et moi, qu'il faut qu'on apprenne à cuisiner. Et très tôt, elle nous a poussé à cuisiner. Mais en fait, c'est vrai que ma mère, quand elle arrive en France, en fait, elle cuisinait très peu. Et chez elle, elle n'était pas connue pour être très active et bonne cuisinière. Donc en fait, elle a appris à cuisiner en arrivant en France. Et en fait, c'est mon père qui, lui, était habitué à avoir une cuisine. C'est sa petite sœur qui cuisinait beaucoup. C'est lui qui l'a poussé un peu dans ses retranchements en disant, ben voilà, j'ai envie de manger ça. Donc tu te débrouilles, mais tu me le fais. Donc, ma mère le faisait.
Lui, il cuisinait ?
Lui, il cuisinait un petit peu. Et souvent, c'était voilà, toujours la grande messe avant de cuisiner. On en entendait parler pendant 2 semaines. Mais ma mère, non, elle a appris à cuisiner comme ça, avec les challenges de mon papa. Comme elle a grandi dans un village, avec pas forcément beaucoup de moyens, elle a toujours été très créative aussi.
Ou les pères, comme celui de Nano, la grand-mère de Jonas. Les pères préfèrent pour leur fille un mari plutôt qu'un travail.
Certaines grand-mères qui ont été peut-être cantonnées à la cuisine et à un rôle très domestique, en tout cas à l'époque de leur passage à l'âge adulte. Et puis pour certaines d'entre elles, c'était pas spécialement un choix, quoi. Elles ont subi cette réalité. Et de la même manière que dans mon film, ma grand-mère raconte qu'elle aurait voulu faire des études pour être pédiatre. Et qu'à l'époque, en Égypte, son père lui a dit « Non, tu n'étudieras pas, tu vas rester à la maison et jusqu'à que tu trouves un mari. Puis quand tu auras trouvé un mari, tu vas quitter la maison familiale pour aller chez lui. »
Une fille ne quitte pas la maison de son père. Et c'est au père de décider ce que la fille doit faire. Elle n'a pas d'ordre à me donner. Et finalement, je ne suis pas partie et je me suis mariée à 18 ans et demi.
Le goût du monde sur RFI.
La cuisine, une pièce bien singulière. Le lieu des confidences, des complicités, le refuge comme le lieu qui nous sort par les yeux parfois, au bord de la crise de nerfs, sur le pas de la porte.
Maman, mange quoi, dis-moi ?
Maman, mange quoi, dis-moi ?
Maman.
Aistumbay est autrice, créatrice de contenu, photographe et cuisinière.
C'est invisible, en fait, c'est ça. C'est presque même une tâche de la maison qui est assez ingrate, c'est souvent oublié.
When you're smiling, when you're smiling, the whole...
Par exemple, on va dire oui, il y a le ménage à faire, il y a le repas, etc. Mais la cuisine, c'est comme si c'était rien. Alors que dans cuisine, on oublie qu'il y a les courses déjà. La gestion de qu'est-ce qu'on mange, le fait de nourrir tout le monde, de savoir quoi cuisiner, les bonnes proportions, les bonnes choses à acheter. C'est vraiment la cuisine qui révèle un peu notre côté créatif. On doit tous les jours déjà faire à manger, mais surtout se débrouiller parfois avec ce qu'on a sous la main. Qui n'a pas un jour ouvert un frigo et se retrouve avec des ingrédients et se dire « mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» C'est énormément de temps, de charge mentale, de stress même parfois. Moi, honnêtement, cette question, elle me stresse. Qu'est-ce qu'on mange? Même quand je sais ce qu'on va manger, je trouve cette question très... elle est stressante, en fait. On mange quoi, maman? En plus, les enfants, ils ont l'habitude de répéter les mêmes mots, comme des robots. On mange quoi? Maman, maman. Et voilà, c'est une grosse charge mentale, je pense, pour toutes les femmes. Et souvent... Enfin, je dis femmes parce que c'est souvent les femmes qui s'en occupent. Bon, heureusement, il y a de plus en plus d'hommes. Mais souvent, qu'on se dise la vérité, moi, j'ai grandi avec une maman qui s'en occupait. Elle, pareil, c'est sa maman qui s'en occupait. Aujourd'hui, dans mon foyer, c'est moi. Donc, c'est un peu le rôle, entre guillemets, invisible de la femme. C'est cette cuisine, même si elle est invisible, qui façonne un peu les souvenirs avec la famille, les enfants. Je pense que chacun de nous, aujourd'hui, si on regarde des... souvenirs d'enfance, on a du toujours quotidien.
Alors, vous voyez ici la chambre de Gérard. Comme vous le voyez, tout communique. Oh, mon steak.
Les années filent, cas à cas, chacun cuisine avec plus ou moins de plaisir. Le plus délicat, le plus risqué, c'est peut-être d'aimer cuisiner. Et de devenir mère. C'est là que tout fout le camp, expliquent les sociologues.
Elle marche pas ta sonnette ?
Hello !
Faire la cuisine, nourrir. Dans cette marmite-là,
jolie cuisine.
L'amour se mêle au mets avec une pincée de culpabilisation et c'est le temps des grandes confusions.
Ça sent bon.
Maman, elle ne cuisinait pas. Par contre, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis dans cette famille américaine où je me suis retrouvé dans une transmission de nourriture d'une mère à ses enfants. Et moi, j'ai vraiment découvert la cuisine nourricière à ce moment-là, en fait.
Love me tender, love me sweet.
Marie Bourèche et BRH, son restaurant Maison Bastille, était un phare dans le 11e arrondissement.
You have made my life.
Elle était prof, mais elle avait surtout été chef dans des restos, en fait.
Donc, elle avait toute une...
Ouais, et puis, ils avaient une ferme, donc ils produisaient des fruits, des légumes, des pickles de cornichons, des confitures de mûres incroyables. Et les États-Unis, je suis parti, j'avais 17 ans. Donc, c'est vraiment rentré à ce moment-là, je pense. Ça faisait vraiment partie des choses qui m'habitaient. Et avec Fian, donc le père de mes trois premiers enfants... J'ai vraiment découvert la cuisine asiatique et à travers finalement Banoï, la grand-mère, qui nous donnait ses recettes en oubliant systématiquement deux ou trois ingrédients pour être sûr qu'on ne pouvait pas les refaire. Je me suis mis à adopter cette cuisine en fait, qui n'était pas du tout la mienne. Les recettes, je les refaisais à la maison et c'était plutôt moi qui cuisinais en fait, qui les cuisinais pour les enfants. J'ai commencé à faire des livres de cuisine pour les enfants et j'ai bien aimé cette espèce de mise en pratique de la nourriture et j'avais envie d'avoir un lieu où on puisse justement retrouver ça, le partage. Donc on a ouvert un resto qui s'appelait Maison Bastille. Une fois que le resto a été ouvert, il y avait de nouveau un repas qui était de nouveau cuisiné à la maison le soir. C'était deux cuisines très différentes en fait parce que ce qu'on faisait là-bas c'était plutôt une cuisine un peu healthy, légumes, etc. Et ici on était plutôt avec des ados, on avait 5 enfants avec Emmanuel à l'époque à la maison et ses repas du soir c'était les repas pris en famille et en même temps j'ai quand même toujours éprouvé du plaisir à faire à manger parce que c'était aussi ma manière d'être encore présente en tant que mère à la maison quoi. Tout en étant très prise à l'extérieur, que ce soit au moment du resto ou quand j'avais mon job en entreprise. C'est vrai que nous la nourriture est extrêmement importante, c'est vraiment mon love language je pense.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled.
C'est sûr, au moment du resto, c'était obsessionnel. Alors, je me couchais le soir avec des livres de recettes autour de moi, dans le lit. Oui, ça occupait tout l'espace, toute la place. Ouais.
Si on transposait exactement votre expérience pour un homme, quelle serait la différence ?
Je pense que c'est cette journée, deuxième journée de la nourriture familiale qui est quand même extrêmement importante. Et une fois de plus, qui est une manière de dire qu'on aime ses proches et qu'on est là quand même à travers la nourriture. C'est-à-dire que tu continues à être là sans être là. Alors est-ce que c'est une injonction que la mère doit être là ? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je me sentais cette obligation ou ce devoir d'être... présente à travers la nourriture pour mes enfants. La grand-mère était médecin, donc enfin, je dirais, elle n'avait pas non plus un temps de dingue pour faire à manger, mais il y avait toujours un plat maison vietnamien là. Les repas étaient extrêmement importants, c'était très codifié, les femmes en cuisine, etc. Mon ex-mari ne parle pas vietnamien, mes enfants non plus, mais la transmission, elle s'est faite, en tout cas dans cette famille-là, uniquement autour de la nourriture. Ouais. Comme Kevin, ce sont des femmes qui avaient des vies actives assez importantes, mais qui avait gardé cette sphère-là de la cuisine faite pour la famille et pour les enfants. Et c'est aussi un carcan, hein, parce qu'en fait, tu fais un plat de coquillettes à tes gamins le soir, c'est pas la fin du monde, mais pour moi, c'était pas possible. Il fallait qu'il y ait un vrai repas. C'est compliqué pour moi de... C'est sûr que je pense qu'un homme se pose pas forcément ces questions-là par rapport à sa présence de foyer et de prise en charge de ce chantier-là.
En termes de transmission, vous avez deux filles, deux garçons. Quel est leur rapport à la cuisine ?
Je sens bien qu'elles se sont affranchies toutes les deux, d'une certaine manière, du carcan de la mère nourricière.
Et de l'impératif de celle qui va s'occuper de la cuisine, au-delà de nourrir.
Exactement. Alors, ça sera intéressant de voir comment ça évolue. Parce que c'est vrai que c'est vrai aujourd'hui. Est-ce que ça sera vrai une fois qu'il y aura l'arrivée d'enfants ou pas, s'il y a un jour des enfants ? Je ne sais pas, ouais.
Depuis que vous êtes seule avec un enfant une semaine sur deux, vous y pensez moins ?
Ah oui. Tellement moins. Tellement moins. Et c'est une libération quand même. Parce que c'est une passion dévorante, la nourriture. C'est-à-dire que ça prend tout l'espace. Ne plus avoir cette obsession, c'est aussi libérateur. Ça t'oblige à te reconnecter à ton envie, ton besoin. Ce qui, je pense, est quelque chose qui arrive finalement assez peu dans la vie des femmes. En particulier la vie des femmes de familles importantes avec beaucoup d'enfants.
Je me rappelle la dissertation d'une élève de 16 ans qui commençait à peu près par ces mots. C'est aujourd'hui jour de grand nettoyage. J'entends le bruit de l'aspirateur que maman promène à travers le salon. Je voudrais fuir. Je me jure que quand je serai grande, il n'y aura jamais dans ma maison de jour de grand nettoyage. L'enfant envisage l'avenir comme une ascension indéfinie vers on ne sait quel sommet. Soudain, dans la cuisine où la mère lave la vaisselle, la fillette comprend que depuis des années, chaque après-midi, à la même heure, les mains ont plongé dans les eaux grasses, essuyé la porcelaine avec le torchon rugueux. Et jusqu'à la mort, elles seront soumises à ces rites. Manger, dormir, nettoyer, les années n'escaladent plus le ciel. Elles s'étalent, identiques et grises, en une nappe horizontale. C'est un éternel présent, inutile et sans espoir. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe.
Le goût du monde, Clémence Denavy. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, hommage aux femmes, aux deux journées en une, à celles qui chaque jour et plusieurs fois par jour mitonnent, organisent, rassurent, nourrissent, assurent les courses et la vaisselle. Respect, c'est la cuisine du quotidien.
Oui, c'est tout.
Merci.
Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, podcasteuse et autrice du livre Mangeuse, histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l'excès, aux éditions Pérégrine.
C'est son livre, l'histoire des femmes de sa famille qui grignotent en cuisine et terminent les assiettes des enfants en s'assurant que les maris ont bon appétit, qui a fait germer l'idée de cette émission.
La scène d'entrée, c'est j'attends mon copain en fait. Et je lui prépare un grand dîner, mais c'est un peu comme si je recevais beaucoup de monde. Je l'attends comme tous les vendredis parce qu'on ne se voit pas la semaine, on ne vit pas ensemble et on se retrouve le week-end. Et donc, quand je l'attends, je suis en train de lui préparer à manger. C'est à la fois le plaisir que je trouve dans ce moment de la préparation où finalement c'est un moment très solitaire qui me permet de faire une douce transition vers le week-end, mais en cuisine, en préparant des choses. Et ce que je raconte aussi, qui est un peu plus cruel vis-à-vis de lui, c'est de dire que finalement c'est le meilleur moment de ma soirée. C'est le moment où je suis toute seule en cuisine en train de me projeter dans la soirée que je vais passer avec lui, mais qui finalement n'a pas vraiment lieu. Parce que quand il arrive, lui, il s'en fiche un peu de tout ce que j'ai préparé. C'est pas forcément ça qu'il attend, en fait, de moi. Mais comme moi, j'ai l'impression d'avoir intériorisé beaucoup, beaucoup des attentes qu'on m'a transmises en tant que femme. Bien nourrir son homme, c'est vraiment quelque chose qui m'a été transmis dans le biberon. Je projette ce désir sur lui alors qu'il ne l'a pas forcément. Donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait en ayant choisi un homme qui n'a pas spécialement grandi dans ce même système misogyne que le mien. Et en étant moi-même très déterminée à faire tomber le système patriarcal en moi, comment ça se fait que je m'accroche à des traditions si anciennes alors qu'on ne me le demande pas ? Dans mon livre, je dis dès le départ que moi, pour moi, c'est fichu. Et j'observe des très jeunes femmes en me demandant si elles, elles peuvent explorer un continent sur lequel moi, j'ai jamais mis les pieds, à savoir celui où les femmes peuvent manger de façon sereine et puis ne pas porter la charge mentale de ce que l'homme aura à manger et ne pas être convaincue que c'est à elles de prendre cette part-là. Je crois que je ne changerai jamais là-dessus. C'est quelque chose que j'ai complètement incorporé. Ce qui a changé, c'est que j'en ai conscience. J'ai pris pas mal de mesures, mais ça, c'est pas depuis le livre, c'est depuis très longtemps, pour que ça ne soit pas une souffrance et pour ne pas le subir. Notamment le fait que je vive seule, donc je n'ai à me préoccuper que de mon repas à moi. Moi, j'adore me préparer à manger à moi. J'écris beaucoup, enfin, je passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à préparer toutes les rencontres que j'organise, toutes les personnes que j'interviewe. Voilà, donc j'ai besoin d'énormément de solitude et de concentration. Le moment où je coupe mes légumes, pour moi-même, c'est un vrai moment de concentration. Alors que quand je le fais pour les autres, je sors de mon sas intérieur et je passe dans un rapport au monde qui est très très différent, qui est celui du week-end pour moi. Et ça passe vraiment par la nourriture, par le fait de
ne plus me nourrir que moi, mais nourrir les autres. Donc pour moi, ça dit énormément de choses.
La disparition, elle opère à ce moment-là, quand nourrir n'est qu'à destination de l'autre.
Je vous dis, j'ai intériorisé cette idée selon laquelle je dois nourrir mon homme quand il est avec moi, quand il est dans la pièce avec moi. J'ai ça en tête en permanence. C'est quelque chose qui m'empêche totalement de vivre à deux. Grâce à cette trouvaille, à ce cheminement féministe qui a été le mien, de trouver mon espace, de créer ma chambre à moi, je ne disparais pas. C'est de la résistance contre moi-même en fait, puisque il est totalement adulte, il sait se faire à manger, et il me le répète très souvent. D'où ça vient moi cette obsession? J'ai dit que ça venait de cette phrase que j'avais beaucoup entendue, mais ça vient aussi de ce que j'ai observé dans ma famille. C'est incroyable, si ma mère n'est pas à la maison, mon père ne mange pas. Et ça, c'est une grande préoccupation pour ma mère. Elle ne peut pas sortir avec des copines parce qu'elle sait que mon père va se laisser mourir de faim. Enfin, j'exagère parce qu'on ne meurt pas de faim en ne dînant pas un soir. Mais quand même, ça la préoccupe forcément de savoir qu'il ne sait pas où est la cuisine.
Il ne sait pas où est la cuisine.
Non. Et je peux le comprendre. Enfin, moi, c'est la même chose avec certains trucs de la maison qui, dans ma tête, sont complètement inaccessibles. Enfin, si j'ai un problème de plomberie, je dois appeler un professionnel. C'est absolument impossible pour moi d'envisager de réparer moi-même. Et je pense que pour mon père, la cuisine, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est inenvisageable pour lui d'aller regarder ce qu'il y a dans le frigo et de transformer ça en repas.
Elle l'a fait. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci Clémence.
C'est un fricassé.
Puis alors c'est une maison occupée chez moi. Je viens juste de mettre le four à chauffer. Oui, alors elles sont toujours sorties les casseroles chez moi. Et sur le... Il y a toujours une grande marmite pour les pâtes. Hier j'ai fait des lasagnes.
Esther El Payani est critique gastronomique, autrice et cuisinière.
Comme je fais souvent quand j'ai pas d'idée, simple et efficace, tout le monde aime ça en fait. Et puis tu peux faire toutes les variations de la terre avec des légumes, avec son gluten, vraiment. Là, vous êtes un peu dans l'antre de la bête, comme on dit. Les gens sont un peu impressionnés parce qu'il y a des étagères partout, des bocaux partout. Elle est toute petite, ma cuisine, mais elle raconte toute mon histoire. Ce four a vu passer les thèses de 30 bouquins. Comme plan de travail, c'est juste le dessus de ma machine à laver. C'est tout petit, ça déborde, mais tout a une utilité. Presque, je peux raconter une histoire sur chacune des casseroles ou chacun des petits détails qui parsèment le lieu.
Cette cuisine-là, qui vous l'a enseignée ?
Ma mère cuisine peu. Elle cuisinait surtout à la cocotte minute. Mon père cuisinait le week-end, mais j'ai eu une chance, c'est que je suis provençale. Aller au marché, avoir des beaux poissons, des beaux légumes, on avait déjà accès facilement à des beaux produits. Et puis finalement, c'est les livres qui m'ont appris à cuisiner. Moi, haute comme trois pommes, je voulais cuisiner. Ça faisait beaucoup rire ma mère, qui n'avait pas du tout la même obsession. Comme beaucoup de femmes de l'après-guerre, les féministes de cette génération ont tout fait pour échapper à la cuisine. Elles ont dû conquérir leur liberté pour ne pas être enchaînées dans cet espace-là. C'était un peu la pièce du foyer qui leur était dévouée. Et quelque part, elles ont organisé leur incompétence domestique. Le fameux « je ne sais pas », comme ça, ça laissait la place.
Vous avez le sentiment que cette liberté gagnée sur la cuisine dans les années 70, est-ce qu'on l'a perdue aujourd'hui?
La cuisine du quotidien, c'est celle qu'on a fait disparaître parce que, par essence, c'est une tâche aliénante. Hein, comme on dit en sciences sociales, aliénante, ça veut dire la tâche que vous faites pour autrui et surtout qui est extrêmement répétitive. Quand on focus dans les médias sur ce qui se passe dans les cuisines des restaurants, on vous dit que c'est un métier de savoir faire tout ça. Mais je peux vous dire que ce qu'on appelait avant économie ménagère. L'expression peut prêter à sourire, mais gérer, savoir cuisiner, nourrir une famille de 4 personnes, c'est un vrai boulot de chef de projet. Ça nécessite des compétences de gestion, d'organisation et d'anticipation. C'est un rétro-planning. Moi, j'étais chef de projet dans une vie précédente, ça me sert tout le temps. C'est une sorte de gymnastique. Tous les jours, je ne repars pas de zéro. Là, j'ai fait cette pâte à gaufres parce que j'avais du levain. Sinon, j'aurais jamais fait ça. Et je me suis dit, tiens, je bricolerai un truc avec ce soir. Je dirais que c'est jamais perdu. Moi, ce qui se passe d'un côté passe dans l'autre. Mais c'est une organisation mentale qui me quitte jamais.
C'est toute la gymnastique, en fait, qui accompagne cette cuisine du quotidien.
C'est ça. Cuisiner au quotidien, c'est se dire qu'il faut faire avec ce qu'on a. Donc faire avec ce qu'on a, parfois, il faut mettre sur son chemin des trucs sympas. On peut voir ça comme une contrainte, c'est une contrainte. Moi, j'ai choisi d'en faire un jeu. Mais parce que j'ai les pouvoirs, parce que j'ai les moyens, parce que j'ai la liberté, parce que j'ai l'autonomie. Et quand pendant le Covid, il y a eu un moment où j'en ai eu marre de cuisiner, ça m'était jamais arrivé de ma vie, jamais. Et là, j'ai compris. Et la difficulté et la lassitude de certains jours de « j'ai pas envie ». Maintenant, j'apprécie que quelqu'un me fasse à manger. Parce que je sais combien ça représente, combien c'est précieux.
Je ne sais pas si on peut trouver une note optimiste à cette disparition et qui ne semble pas spécialement embarquée pour changer.
Moi, j'ai l'impression que le féminisme, vraiment dans tout ce qu'il implique, d'intelligence collective, cet immense cheminement qu'on a mis en place, qui se nourrit justement de tout ce qu'on a compris dans le passé, et comprendre tous les mécanismes à l'œuvre depuis si longtemps et de les déconstruire, pour moi, ça peut vraiment permettre de dénouer des choses. Je ne suis pas forcément un bon exemple de ça, mais quelque part si, puisque ce que je viens de vous raconter, c'est quand même une résistance que j'ai trouvée pour moi-même. Et je pense que si chacun, chacune trouve une résistance pour soi-même et la partage avec les autres, de créer ce lien et cette grande conversation entre femmes, je pense qu'on peut vraiment, de façon intelligente, intellectuelle et sensible, réussir à se défaire de cette disparition.
Maglone Toussaint-Sama sera dans cette émission.
Oh Maglone Toussaint-Sama, vous savez combien je lui dois ? Elle a, je lui dois ma vocation.
Maglone Toussaint-Sama, pourquoi on dit c'est une très bonne cuisinière et c'est un grand chef ?
Parce que c'est la cuisinière, elle n'a pas le rôle d'un chef. Ne dirige pas, si vous voulez.
Madame Darroze ou Madame Pic n'ont pas spécialement envie qu'on les appelle chef, d'ailleurs.
Oui, parce qu'elles sont intelligentes.
Ces mères lyonnaises, même quand elles ont eu 3 macarons au guide rouge, elles n'ont jamais revendiqué un titre de chef.
Si elles avaient revendiqué, on les aurait taxées de ne pas être à leur place.
Et vous avez l'impression que c'est toujours aussi difficile d'être une femme dans
oui.
ce monde ?
De toute façon, il est difficile d'être une femme. J'essaie de me défendre. C'est mon seul bien, c'est d'être une femme. Ben, qu'on n'y touche pas trop. Voilà.
Ça fait 7h43.
Ah, pour un gigot de 7 heures.
Là, je vais nous. Ouais, pour un gigot de 7 heures, je pense qu'on est bon.
On est pas mal.
La disparition, une émission du Goût du Monde, pensée et écrite avec la complicité de Lorraine Malka et Estherelle. Merci à Anto, à Estou, Marie, à toutes les femmes qui régalent, créent, inventent, rient aux éclats, aiment, se moquent, ratent, salent de larmes. Les gâteaux d'anniversaire dorment debout et ne respectent pas les dates de péremption. Merci à Stéphane Desfossés pour la mise en onde de ce Goût du Monde, à mon mari pour la liberté laissée, pour la travailler, à vous toutes et tous. De votre fidélité, on vous souhaite une très très bonne semaine.